Vous écoutez, on lit pour vous.
Où vont les particules fines qu'on respire? Un texte de Mathieu Perrault paru le 6 août 2023 dans la presse. Question de Pierre Vérès. Que se passe-t-il quand les particules fines PM2,5 s'installent dans les poumons? Quand on respire, une partie des particules fines reste dans les poumons. Une autre partie migre vers les ganglions lymphatiques et d'autres organes, dont le cerveau. On trouve sans cesse de nouveaux endroits dans le corps où les particules fines s'accumulent, explique Dean Schrauffnagel, pneumologue de l'Université de l'Illinois à Chicago, qui a beaucoup publié sur cette question. On n'écrit jamais sur un certificat de décès que la cause en est la pollution atmosphérique. Mais il est certain qu'il y a des effets négatifs un peu partout dans l'organisme. Quand il étudiait à l'Université McGill dans les années 1970, le Dr Schrauffnagel assistait des pathologistes qui dissolvaient les poumons de patients morts pour identifier les corps étrangers qui s'y trouvaient. À l'époque, il y avait beaucoup plus de fumeurs, se souvient-il. Mais même chez les non-fumeurs, on retrouvait facilement une tasse de particules fines dans les tissus des poumons. Les particules fines de plus de 10 micromètres, soit 1/100 de millimètre, sont généralement bloquées au niveau du nez et des voies respiratoires supérieures. Celles dont la taille est entre 5 et 10 micromètres s'arrêtent plus bas, au niveau de la trachée et des bronches. Elles sont expulsées avec le mucus, dit le Dr Schrauffnagel. Mais les particules de moins de 2,5 micromètres, les fameuses PM2,5, vont jusqu'aux poumons. Les plus grosses parmi les PM2,5 sont gobées par les macrophages, des molécules du système immunitaire. Ça permet de les remonter jusqu'au mucus et de s'en débarrasser. À un niveau de 0,1 micromètre, par contre, les particules peuvent entrer dans les vaisseaux lymphatiques et sanguins. On parle de particules ultra-fines, dit le Dr Schrauffnagel. Avec le sang, elles peuvent arriver à d'autres organes, dont le cerveau. Et si elles entrent dans le système lymphatique, elles se rendent jusqu'aux ganglions. Normalement, dans les ganglions, le système immunitaire détruit les corps étrangers comme les bactéries. Mais les particules ultra-fines ne peuvent pas être détruites parce qu'elles ne sont pas vivantes. Alors elles s'accumulent dans les ganglions, où les tentatives infructueuses du système immunitaire pour s'en débarrasser causent de l'inflammation. Barbara Mayer fait partie des chercheurs qui ont montré comment les particules ultra-fines arrivent au cerveau, notamment dans une étude publiée en 2016 dans la revue PNAS. Il y a deux voies d'accès au cerveau pour les particules ultra-fines, dit la biologiste de l'Université de Lancaster en Angleterre. Elles peuvent transiter directement au cerveau par les nerfs olfactifs à partir du nez. La deuxième voie d'accès est par le sang. Nous avons réalisé que les particules ultrafines endommagent la barrière sang-cerveau. Ça leur permet d'accéder au cerveau, nous dit Barbara Mayer. Il pourrait y avoir une troisième voie d'accès au cerveau, pour des particules encore plus petites. Les particules fines qui sont expulsées des poumons avec le mucus se retrouvent souvent dans l'estomac, parce que le mucus est avalé, dit Mme Mayer. Elles peuvent alors entrer dans les nerfs qui vont du système digestif au cerveau. Il nous faut maintenant comprendre si la composition chimique des particules fines influence leur impact sur le cerveau, expose Mme Mayer. C'est très probable, surtout dans le cerveau. En savoir plus. Source. Conseil canadien des ministres de l'Environnement. 26% Réduction des émissions atmosphériques de particules fines au Canada entre 1990 et 2004. 24% Augmentation des émissions atmosphériques de particules fines au Canada entre 2004 et 2019. C'était « Où vont les particules fines qu'on respire? » Un texte de Mathieu Perrault paru le 6 août 2023 dans la presse.
Les reines de la pataugeoire. Un texte de Fanny Britt paru le 14 juillet 2023 dans le magazine « Nouveaux projets ». On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il semblerait que l'expression ne s'applique pas à la tenue des maires à la piscine municipale. Petite analyse vestimentaire estivale tirée de notre document 04. À propos des corps des maires, il y a peu d'expériences plus désagréables pour qui n'entretient pas avec son corps post-grossesse une relation idyllique que de se retrouver à la pataugeoire d'un parc montréalais un matin d'été en compagnie d'une horde d'autres mères. D'aucunes s'avanceront pour affirmer que le parc Laurier offre l'expérience la plus déplaisante de toutes. Mais le parc Kennedy à Outremont ne donne pas sa place non plus. Je n'ai jamais poussé l'audace jusqu'à me rendre au parc Westmount, mais ça ne doit pas être piqué des vers non plus. Quoique là, on risque peut-être d'apercevoir plus de nounous que de mamans, et alors l'expérience est en partie faussée. Se tenir debout en maillot de bain, dans 10 pouces d'eau, à se contorsionner dans des angles plus flatteurs les uns que les autres pour empêcher notre descendance de se noyer ou d'arroser Lou Félix Antoine Jules, tout ça au beau milieu d'une ville, avec pour seule protection entre soi et le reste du monde urbain, une misérable clôture Frost. Si vous n'avez jamais mis les pieds dans une pataugeoire, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a là un exercice d'humilité et d'humiliation quasi certaine. Parce que si vous, vous vous contentez d'un modeste une pièce de natation, le plus couvrant ou le plus anonyme des maillots qui traînent au fond de votre tiroir et qui vous permettent de trimer juste le minimum de bikini requis pour être acceptable aux yeux de la société moderne, du moins au nord de Burning Man, sachez que vous ne rencontrerez pas que vos semblables sur le chemin de la pataugeoire. Vous croiserez quelques mères encore plus pudiques que vous. Elles auront adopté le tankini jupette, la plupart du temps dans de tristes imprimés vaguement hawaïens, qui sont les seuls imprimés offerts aux tankini jupettes, comme si même les compagnies de maillots avaient capitulé, comme si leurs cadres, dans leur tour de bureau de Santa Monica ou de Richmond, Virginia, s'étaient dit « Mais il n'y a que les tristes femmes qui maudissent leur corps pour porter ces trucs. Alors, why bother? » Celles-là auront les épaules légèrement voûtées et le teint brouillé. Mais elles auront apporté des collations. Il y aura quelques irréductibles en vêtements qui refuseront carrément de s'abaisser à porter un maillot, même dans les plus violentes chaleurs, et vous les verrez rouler leurs jeans jusqu'à la cuisse, le front perlé de sueur, la mine accablée et l'esprit dangereusement attiré par le trio New Yorker, The Atlantic, Liberté qui traînent dans leur sac. Celle-là, en les croisant, vous les saluerez avec respect. Et puis, il y aura les bikinis triangles. Les bikinis triangles, ou pour reprendre l'appellation de Geneviève Patterson, les plottes de pataugeoire, ne font pas de distinction entre la plage à Mykonos et le parc Jarry. Si le soleil brille et qu'il y a ne serait-ce qu'une flaque d'eau au sol, elle se déchire la chemise et exhibe les formidables atouts que 3 bébés et 48 mois d'allaitement cumulés n'auront pas altéré le moindrement. Ventre plat et hâlé, seins fiers, fesses hautes et cuisses qui ne se touchent pas, les bikinis triangles sont souvent assises au bord de la pataugeoire. Elles traînent régulièrement une amie avec elles, et cette amie profite généralement du même privilège corporel, ce qui n'est pas sans vous agacer, parce que, disons-le franchement, tout vous agace un peu. Pendant toute la durée de leur séjour à la pataugeoire, vous les observez du coin de l'œil et vous priez pour qu'elles soient les gardiennes les nounous, les grandes sœurs, les cousines, tout, mais pas les mères de cette ribambelle d'enfants qui tournoient autour d'elles pendant qu'elles déposent leur Ray-Ban au bout de leur nez. Mais, immanquablement, le moment finit par arriver. Un des mioches se pète la fiole ou réclame un jus, et c'est avec un retentissant « Maman !» qu'il le fait savoir. Et alors le bikini triangle se lève, reine incontestée de la pataugeoire, et marche, en prenant tout son temps, histoire d'asseoir sa souveraineté sur les modestes anonymes, les tristes tankini-jupettes et les irréductibles habillés. Impossible, bien sûr, de savoir qui est la plus heureuse de ces femmes, ou qui s'amuse le plus avec ses enfants, ou qui aura le meilleur cul le soir venu. Mais pour le moment, sur l'échiquier de la pataugeoire, les reines des triangles l'emportent, et toutes les autres en sont quittes pour une bonne dose de noir broyé. Fanny Britt est dramaturge, autrice et traductrice. Elle compte une dizaine de pièces à son actif, dont « Couche avec moi, c'est l'hiver » et « Bienveillance, le méac ». Elle a traduit plus d'une quinzaine de pièces du répertoire contemporain, en plus de plusieurs ouvrages littéraires. Elle œuvre également en littérature jeunesse, entre autres avec sa série d'albums « Félicien » publiée à la courte échelle, mais surtout « Jane, le renard et moi » et « Louis parmi les spectres », album primé publié à la pastèque. Son premier roman, « Les maisons », et son essai sur la maternité, « Les tranchées », atelier 10, sont de grands succès de librairie. C'était Les reines de la pataugeoire, un texte de Fanny Britt, paru le 14 juillet 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
Pourquoi le vapotage est moins nocif pour les adultes avec une dépendance au tabac? Une chronique signée Richard Béliveau, parue le 6 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. En plus d'informer les fumeurs des dangers de la cigarette, il serait aussi souhaitable de promouvoir des options de remplacement moins nocives et de changer notre stratégie de lutte contre le tabac. Santé Canada a récemment proposé d'ajouter de nouvelles mises en garde sur chaque cigarette pour sensibiliser les fumeurs aux dangers posés par le tabagisme. On ne peut être contre la vertu, mais on peut se questionner sur l'impact réel de ces nouveaux avertissements. Les cigarettes sont en effet devenues, au cours des dernières années, des produits complètement marginalisés, bannis de l'espace public et vendus à des coûts prohibitifs sous forme de paquets hideux, affichant déjà très clairement les effets catastrophiques du tabac. Une personne qui fume encore, dans un tel contexte, souffre manifestement d'une grave dépendance au tabac, et il est peu probable qu'un avertissement supplémentaire puisse l'inciter à finalement écraser pour de bon. Ce n'est pas le manque de volonté de ces personnes qui est en cause ici, mais une dépendance fondamentale qui nuit aux changements comportementaux essentiels à l'arrêt du tabagisme. Option moins toxique. C'est la nicotine qui entraîne la dépendance biochimique à la cigarette, mais cette molécule n'a pas d'effet majeur en tant que telle sur le corps. C'est plutôt la combustion des feuilles de tabac qui génère les milliers de composés toxiques qui sont responsables des maladies associées au tabagisme. Cette distinction est capitale, car elle a catalysé le développement d'une vaste gamme de produits qui permettent un apport en nicotine sans faire intervenir la combustion de tabac. Le meilleur exemple est la cigarette électronique. Dans ce dispositif, une solution de nicotine est chauffée à environ 80 degrés Celsius à l'aide d'un atomiseur, ce qui génère un aérosol qui permet au vapoteur d'inhaler une petite quantité de nicotine, comme un fumeur, mais qui ne contient pas les multiples molécules cancérigènes, le monoxyde de carbone et les particules fines qui sont générées lors de la combustion du tabac à environ 900 degrés Celsius. Pour le fumeur très dépendant, l'absorption d'une quantité suffisante de nicotine avec ce dispositif représente une façon d'assouvir sa dépendance tout en réduisant considérablement son exposition aux toxiques du tabac. Il s'agit d'un exemple classique de réduction des méfaits ou le remplacement d'un produit très dangereux, la cigarette, par une solution de rechange moins nocive. La cigarette électronique diminue les risques de maladies encourus par l'utilisateur. Réduction des méfaits. Les études réalisées au cours des dernières années montrent effectivement que la cigarette électronique, sans être parfaite, pour les poumons, rien ne vaut l'air pur, est beaucoup moins nocive que le tabac. Par exemple, une étude de l'Institut Pasteur montrait récemment que la vapeur émanant des cigarettes électroniques contenait 99 % moins de composés toxiques, carbonyl et hydrocarbures aromatiques, que la fumée de cigarette. Cela fait en sorte que les fumeurs qui remplacent la cigarette de tabac par sa version électronique sont exposés à des quantités beaucoup moins élevées de toxiques et montrent des améliorations notables de leur santé, par exemple du point de vue cardiovasculaire. De plus, non seulement la cigarette électronique est moins toxique que le tabac, mais plusieurs études cliniques récentes montrent qu'elle est deux fois plus efficace pour le sevrage tabagique que les approches traditionnelles, gomme, timbre. Moderniser l'approche anti-tabac. La cigarette électronique peut donc être vue dans ce contexte spécifique comme une innovation technologique qui pourrait s'avérer cruciale pour diminuer les risques encourus par les fumeurs très dépendants qui demeurent, après des décennies, encore réfractaires aux stratégies classiques de lutte contre le tabac, notamment les mises en garde ajoutées sur les produits. S'il faut, évidemment, protéger les jeunes de la banalisation du vapotage et du risque de devenir dépendants de la nicotine, la situation est différente avec les adultes fumeurs qui ont déjà une dépendance au tabac contre laquelle peu de stratégies fonctionnent vraiment et qui mettent à risque leur santé en continuant de fumer. En Angleterre, Public Health England a adopté cette approche et fait une promotion agressive de la cigarette électronique pour remplacer la cigarette traditionnelle. Cependant, en Amérique du Nord, cette approche de réduction des méfaits est complètement négligée et on préconise encore le tout ou rien, c'est-à-dire l'abstinence complète de toute forme de produit contenant de la nicotine, qu'il contienne du tabac ou non. L'objectif ultime de la lutte contre le tabac ne devrait pas être une croisade morale sur l'utilisation de la nicotine comme drogue récréative, mais plutôt de réduire en toute priorité l'incidence des maladies liées au tabagisme, en particulier le cancer du poumon et les maladies cardiovasculaires. L'abstinence totale est sans doute un objectif louable, mais concrètement, il faut tenir compte du grand nombre de personnes qui sont incapables d'arrêter de fumer par elles-mêmes ou en utilisant les outils de sevrage actuels et risquent par conséquent de mourir prématurément. La stigmatisation de ces personnes ne peut qu'accroître leur isolement et leur détresse. En ce sens, s'il faut continuer à informer les fumeurs sur les dangers du tabagisme, il serait également souhaitable de les sensibiliser davantage à l'utilisation de solutions de remplacement beaucoup moins nocives à la cigarette et qui peuvent avoir des impacts positifs majeurs sur leur santé. C'était Pourquoi le vapotage est moins nocif pour les adultes avec une dépendance au tabac? Une chronique signée Richard Béliveau, parue le 6 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
Les écoles secondaires de Montréal s'attaquent au sextage. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 17 avril 2024 dans Le Devoir. La procédure d'intervention Sexto a été déployée au cours des derniers mois dans la majorité des écoles secondaires de Montréal afin de contrer le phénomène troublant du sextage chez les adolescents. Obtenant un taux de récidive de moins de 3 %, les responsables des milieux policiers et judiciaires estiment avoir visé dans le mille avec cette méthode qui met l'accent sur la prévention plutôt que sur le dépôt d'accusations criminelles contre des jeunes. Un cas typique de sextage est celui de deux jeunes qui se fréquentent et qui s'échangent par cellulaire des photos d'eux nus. Au moment de la rupture, celui qui ne l'accepte pas diffuse à grande échelle des photos de son ex-petite amie. On peut aussi penser au cas d'une jeune qui confie à ses amis avoir reçu des photos d'une personne nue par texto et qui les relaie pour le prouver et être acceptée. Sauf que l'expérience peut être très traumatisante pour ceux qui voient leurs photos circuler. Ils peuvent être ridiculisés par leur père et même être victimes d'intimidation. Le sextage est une problématique grandissante, note d'entrée de jeu le commandant Marco Breton de la section de l'exploitation sexuelle du service de police de la Ville de Montréal, SPVM, qui peut impliquer de multiples jeunes de différentes écoles, étant donné que la diffusion d'images par Internet se fait à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi il se réjouit que l'initiative Sexto soit désormais en place dans la métropole pour faciliter le traitement des cas de sextage en milieu scolaire par les 12 à 17 ans. Il qualifie la collaboration des écoles montréalaises d'excellente. La procédure a été imaginée en 2016 par le service de police de la ville de Saint-Jérôme, en collaboration avec le directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP. Depuis, la très grande majorité des forces policières québécoises lui ont emboîté le pas, confirme Maître Maxime Ouellette, procureur pour le DPCP et responsable du projet Sexto. Le SPVM, dont le territoire compte de très nombreux établissements scolaires, s'est attelé à la tâche l'an dernier et a formé ses patrouilleurs et ses agents sociaux communautaires. Actuellement, près de 130 écoles de la métropole, sur 171, y participent déjà. De la pornographie juvénile. Beaucoup d'adolescents ne le savent pas, mais lorsqu'un mineur prend une photo ou une vidéo de lui-même dévêtue ou à caractère sexuel, il peut s'agir de production de pornographie juvénile, une infraction au code criminel. Le jeune qui reçoit une telle photo et qui la transmet à ses amis commet aussi un crime, soit la distribution ou la diffusion de pornographie juvénile. Les sextos, une contraction des mots « sexe » et « texto », continue de faire des victimes. Depuis 2016, 1415 dossiers ont été ouverts dans le cadre de Sexto et 4712 jeunes ont été rencontrés dans toute la province, ce qui exclut toutefois les cas qui n'ont pas été rapportés en milieu scolaire, mais plutôt directement aux policiers. À Montréal, en quelques mois à peine, 35 cas ont été signalés au SPVM par la procédure Sexto. Et depuis 2023, Maître Ouellette voit aussi circuler des cas inquiétants d'hypertrucage, notamment où un jeune prend une photo d'une adolescente en maillot de bain, puis la déshabille au moyen d'une application informatique. La diffusion d'une telle image est tout aussi traumatisante pour la victime. J'en vois de plus en plus, confirme le commandant. Loin des tribunaux, Sexto offre une manière d'intervenir par voie extrajudiciaire c'est-à-dire à l'extérieur du système ordinaire des tribunaux, sans procès ni casier judiciaire, appelé « dossier d'adolescent pour les moins de 18 ans », dans la plupart des cas. Il permet aussi d'agir beaucoup plus rapidement. Un cas est réglé en un maximum de 4 jours, alors que selon le processus traditionnel, il pouvait s'écouler de 12 à 18 mois entre la plainte à la police et la décision du DPCP de déposer ou non des accusations, explique Maître Ouellette. Le mécanisme offre aussi un cadre d'intervention clair et défini, ce qui est rassurant pour les intervenants en milieu scolaire, ont-ils rapporté à Maître Ouellette. Beaucoup sont aussi confortés par le fait que l'intervention est éducative et non pas punitive, puisqu'elle n'impose pas à l'adolescent un dossier judiciaire lourd à traîner. Ils ont été formés pour utiliser la trousse d'intervention qui prône la bienveillance et l'absence de jugement envers les jeunes, avec une grille d'évaluation de l'incident. L'école la remet ensuite aux policiers, qui contactent le DPCP afin de déterminer si la diffusion des images constitue un acte impulsif, la majorité des cas, ou malveillant. S'il s'agit d'un acte impulsif, les jeunes et leurs parents auront une rencontre de sensibilisation avec des policiers qui visent à prévenir les récidives. Mais si le DPCP détermine qu'il s'agit d'un acte malveillant, visant la vengeance, l'humiliation ou l'extorsion d'argent, une enquête criminelle pourra être menée par les policiers qui aboutira potentiellement à une judiciarisation, tout comme dans les cas de récidive. La majorité des jeunes n'ont pas de mauvaises intentions. On veut les éduquer et les sensibiliser aux conséquences du sextage, et la réalité est que le taux de récidive est de moins de 3% sur l'ensemble des jeunes qui ont bénéficié du protocole depuis 2016, dit Maître Ouellette. En matière de prévention, le message, c'est vraiment de ne pas partager d'images intimes, souligne le commandant Breton. C'est cette étape qui est cruciale, parce que ce qui se passe après, c'est dur à contrôler. C'était « Les écoles secondaires de Montréal s'attaquent au sextage », un texte de Stéphanie Marin, paru le 17 avril 2024 dans Le Devoir.